Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Nous accélérons les mesures pour le pouvoir d'achat. Voici le titre donné à cette interview d'Édouard Philippe aujourd'hui dans Les Échos. Et pour commenter cette interview, nous recevons Jean Pisani-Ferry. Bonjour, vous êtes ancien responsable du programme d'Emmanuel Macron, professeur à Sciences Po, à l'ERTI School de Berlin et à l'Institut universitaire de Florence, avec notamment Jean Pisani-Ferry dans cette interview, des éclaircissements, si j'ose dire, sur la prime de 100 euros pour un smicard sur deux. Expliquez-nous comment va fonctionner cette prime et ce que vous en pensez.
Bonjour. Oui, pour répondre à l'annonce qui avait été faite en termes simples par le président, qui était 100 euros pour tous les smicards, en fait, ce qu'a choisi le gouvernement, c'est de prendre la voie de la prime d'activité, qui est ce dispositif qui existe, qui prolonge ce qui avait existé dans le temps, la prime pour l'emploi, puis le RSA activité, et qui est un complément de rémunération pour les salariés aux alentours du SMIC. Donc, complément de rémunération qui prend la forme d'une prime versée par l'État, et qui est calculé en fonction du salaire et de la situation familiale. Donc ça tient compte en fait non seulement de la composition du ménage, du nombre d'enfants, mais aussi des revenus de l'ensemble du ménage. Voilà. Et donc ça va être augmenté. Ça va être augmenté de manière à ce que des salariés, les célibataires au SMIC toucheront 100 euros de plus. Un couple de smicards sans enfants touchera à peu près 100 euros de plus chacun. Une famille avec des enfants voisins du SMIC touchera aussi ça, mais il y a des situations dans lesquelles, dans un ménage, un des salariés est au SMIC, l'autre gagne beaucoup plus. Il y a même un chiffre extraordinaire. Il y a 300 000 smicards qui vivent dans des foyers qui sont dans les 10% les plus riches. Donc ceux-là n'auront rien.
Voilà. Et oui, parce qu'en fait, c'est ce que l'on découvre. On découvre donc que seulement 55% des salariés payés au SMIC bénéficieront de la hausse donc de 100 euros promise par Emmanuel Macron. Au final, est-ce que c'est une bonne mesure, vous qui avez participé à l'élaboration
Écoutez, moi, je pense que c'est sensiblement plus juste, c'est un meilleur usage de l'argent public que de le concentrer sur ceux pour lesquels ça représente un apport réel et ça répond à un besoin réel. On aurait pu dire 100 euros pour tous les smicards, mais à ce moment-là, on aurait arrosé large.
Trop large
par rapport à ce que on cherchait, au problème qu'on cherche à traiter.
Et le problème que l'on cherche à traiter, donc vous avez confectionné en compagnie d'autres économistes et de politiques le programme économique d'Emmanuel Macron, puis vous avez souligné que vous étiez en désaccord partiel, mais désaccord réel avec la politique économique du gouvernement. Est-ce que ces mesures vous paraissent de nature à restaurer de l'équité dans cette politique économique, Jean Pisani?
Oui, j'ai eu des désaccords, mais ces mesures, elles consistent largement à anticiper et à amplifier des dispositifs qui devaient graduellement entrer en application au cours du quinquennat. Ce qui s'est passé, c'est que comme les mesures sur la fiscalité du capital et la fiscalité des revenus du capital ont été prises tout de suite, comme il y a eu cette erreur qui a consisté à décaler entre la bascule de CSG et de cotisation, à faire l'augmentation de CSG d'abord et la baisse des cotisations après, qui a rendu tout ça illisible.
C'était une erreur.
Ah oui, c'était une erreur, très clairement. C'était une erreur pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire pour prendre de l'assurance qu'on ne risquait pas d'avoir un déficit trop élevé. En fait, l'assurance était inutile et ça a rendu tout illisible. Donc il y a eu clairement un déséquilibre qui s'est créé avec les mesures bénéficiant aux classes aisées qui étaient prises tout de suite et les mesures qui devaient bénéficier aux classes populaires qui étaient décalées dans le temps. Bon, ça c'est corrigé en fait. Avec cette décision qui avance tout de suite au 1er janvier prochain, ces mesures qui vont bénéficier fortement aux classes populaires.
Le traitement des heures supplémentaires, il y a beaucoup de chômeurs en France, était-il nécessaire de désocialiser les heures supplémentaires, Jean Pisani-Ferry?
J'ai jamais été très fanatique de cette mesure, qui est très populaire parce que ça touche effectivement ça touche des catégories populaires un peu au-dessus du SMIC, plus des gens qui ont des qualifications, donc des gens qui sont aux alentours de 1,5 SMIC, 2 SMIC. Bon, ça fait un supplément de revenus, ce supplément de revenus est défiscalisé, mais d'abord, je trouve qu'il n'y a pas tellement de raisons de considérer que quand on fait des heures supplémentaires, on ne subit pas la fiscalité ou les cotisations sociales. Deuxièmement, il y a des risques assez importants de contournement, d'évasion avec des heures. On ne sait pas toujours très bien mesurer qu'est-ce qui est une heure normale et qu'est-ce qui est une heure supplémentaire. Voilà. Et puis, il y a des effets d'aubaine. Donc, pour toutes ces raisons, je ne pense pas beaucoup de bien de cette mesure.
Le Premier ministre confesse aujourd'hui des erreurs. Il dit qu'il y a une pédagogie qui n'a pas été bien faite. Est-ce que, par exemple, la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF en IFI, un impôt sur la fortune immobilière, était une bonne mesure, selon vous, Jean Pisani-Ferry?
Je pense que l'ISF était un très mauvais impôt. C'était un très mauvais impôt parce qu'on avait créé cet impôt avec l'idée qu'il fallait taxer la fortune. Et puis, on s'était employé au fil des années à réduire, en fait, l'assiette de cet impôt. Donc, on mettait dehors l'outil de travail, qu'on avait appelé l'outil de travail. Ce qui voulait dire que quelqu'un qui investit dans une seule entreprise pouvait être exonéré, mais quelqu'un qui investissait dans plusieurs entreprises y était soumis, que quand on revendait son entreprise, on était soumis. On avait toutes sortes de systèmes d'exemption, d'exonération, de niche, qui fait que, j'ai calculé, un jour Bruno Le Maire a dit le rendement sur les 100 premières fortunes, c'est 70 millions. Demander combien ça fait, les 100 premières fortunes. Ça fait à peu près 300 milliards. Donc 70 millions sur 300 milliards, c'est un cinquantième de ce que donnerait l'application du taux de 1,5%. Donc ça voulait dire quand même qu'il y avait un problème dans cet impôt qui était supposé toucher les milliardaires et qui en fait touchait les millionnaires.
Bon, mais on aurait pu l'amender, réformer.
On aurait pu le réformer, on aurait pu lui substituer une taxation sur les successions. Moi, j'ai pris position pour cette solution, c'est-à-dire
augmenter.
On supprime un impôt qui est un mauvais impôt, et en revanche, à l'occasion des successions, on taxe plus de manière plus importante.
Ça a été refusé par Emmanuel Macron.
Ça a été refusé. Et il faut dire que quand on regarde les sondages, c'est l'impôt sur les successions, c'est le plus impopulaire de tous les impôts. Alors que je pense que dans une société dans laquelle il y a des inégalités, il y a de l'enrichissement, l'impôt sur les successions, ça fait partie de ce qui évite la reproduction sociale ou les excès de la reproduction sociale.
Mais à l'époque du programme économique d'Emmanuel Macron, pendant la campagne, il y avait eu une sous-estimation du coût de la suppression de l'ISF. Il devait y avoir à peu près un coût de 700 millions. On s'aperçoit que ce sera plus proche de 3 milliards et demi. Il devait y avoir une compensation par la flat tax et cette compensation, elle ne s'est pas faite.
Non, je ne crois pas. Je crois pas, non.
On savait d'emblée que ça allait coûter 3 milliards et demi.
On savait. Alors oui, on sait. On ne sait pas encore, d'ailleurs, exactement quel va être le rendement de l'impôt sur la fortune immobilière, qui peut être.
Qui dépend des prix de l'immobilier.
Qui dépend des prix de l'immobilier, qui dépend du fait aussi qu'à l'occasion on a éliminé un certain nombre de niches. Donc on va voir ce que ça donne. Non, je crois pas.
Donc on fait en fait ce genre de mesure sans savoir exactement combien ça va coûter.
On sait jamais exactement combien ça va. Prenez les heures supplémentaires dont on vient de parler. On ne sait pas exactement combien ça va coûter. Ça va dépendre du nombre d'heures supplémentaires qu'il va y avoir. Enfin, les agents économiques réagissent aux mesures. C'est pas de la mécanique.
Alors justement, les agents économiques réagissent à des mesures. Comment vont-ils réagir, selon vous, Jean Pisani-Ferry, vous qui êtes économiste, à l'impôt à la source?
En principe, l'impôt à la source, c'est un enrichissement pour les ménages, puisque ça veut dire, enfin c'est l'idée de l'année blanche, mais alors l'année blanche, on continue à payer, mais ça veut dire qu'au moment où on passe à la retraite, eh bien, on ne va pas avoir cette chute de revenus avec l'impôt qui, une année de plus, est basé sur le revenu d'activité. Donc en principe, c'est un transfert en faveur des ménages, donc en principe, ça devrait être positif. Ça, c'est ce qui serait rationnel. Maintenant, comment est-ce que les ménages vont réagir au fait qu'ils vont voir sur leur feuille de paye un niveau de rémunération plus faible parce qu'il sera net des impôts au lieu d'avoir les impôts qui sont prélevés ensuite? Ça, on n'en sait trop rien.
Était-ce une priorité?
Écoutez, moi, j'ai défendu cette mesure parce que je pense que le décalage entre le temps de la rémunération et le temps de l'imposition crée beaucoup de problèmes dans une économie dans laquelle il y a de la volatilité, dans laquelle les gens perdent leur emploi, retrouvent un emploi, les situations familiales changent, etc. On n'est plus du tout dans un monde stable, on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup plus d'instabilité. Et donc il faut que l'impôt s'adapte à cette instabilité des situations individuelles, sinon on crée énormément de problèmes.
Aujourd'hui, on voit donc toute une série de mesures pour accroître le pouvoir d'achat ou tenter de l'accroître, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, c'est suffisant? Il faudrait d'autres choses, selon vous, Jean Pisani-Ferry?
Enfin, il y a des limites à ce qu'on peut faire pour augmenter le pouvoir d'achat. Hein, parce que le pouvoir d'achat, ça vient de la productivité, ça vient de la croissance de l'économie. Alors le paradoxe, c'est que on a eu, au cours des 10 dernières années, on a eu une certaine croissance de l'économie, pas très brillante. On a eu 8% de croissance jusqu'en 2017. Et sur cette période, le pouvoir d'achat corrigé de la structure des ménages, donc celui qui est réellement perçu, hein, par ce qu'on appelle par unité de consommation, il a stagné. Et il a stagné parce que la population augmente et que les ménages deviennent plus souvent des ménages à une seule personne, avec le vieillissement notamment, ou avec les séparations. Et donc on a cet écart entre les deux qui s'est creusé, qui explique, qui permet de comprendre pourquoi il y a à la fois cette... les statistiques disent 8 points de pouvoir d'achat en plus en 10 ans, ce qui n'est pas extraordinaire du tout, mais qui est quand même quelque chose. Et pourquoi il n'y a pas cette perception? Bon, je pense que pour l'avenir, d'abord, là, on est quand même plutôt dans une phase dans laquelle l'économie croît, dans laquelle il y a du pouvoir d'achat qui se crée dans l'économie marchande. Donc, on va sentir ça. Et puis, il y a les mesures en plus. Donc, normalement, il devrait y avoir la perception que les choses s'améliorent un peu.
Mais alors, vous dites qu'il y a des limites en matière donc de politique pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire plus de redistribution? Est-ce qu'il pourrait y avoir des transferts plus importants entre les classes aisées et les classes les moins aisées, Jean Pisani-Ferry?
Oui, il faut pas oublier qu'on en a fait pas mal. Donc, au cours des 10 dernières années, en fait, c'est une étude de l'OFCE qui a été publiée récemment, on s'aperçoit que on a pris à peu près 5% du revenu des 10% les plus élevés aisés.
11 milliards.
11 milliards. Et on a redistribué sur les premières, les 10, 20%, 30% du bas. Et on a augmenté de 5% les revenus du bas. Il y a très peu de pays qui ont fait ça.
5 à 6 milliards redistribués. Mais alors pourquoi ça ne se sent pas? Parce que cette crise des gilets jaunes, elle a donné lieu à toute une série de récits très incarnés. des gens qui vous disent, voilà, je gagne par exemple 1 500 euros pour une famille de 4 personnes, c'est mon revenu et je ne m'en sors pas. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup plus, qui gagnent jusqu'à 3000 euros pour une famille, par exemple, de 2 enfants et qui ne s'en sortent pas aussi. Comment cela se fait-il qu'il y ait autant de redistribution et pas de résultat?
D'abord parce que le fait d'avoir une économie qui est avec un taux de croissance aussi faible, ça s'était jamais vu. Depuis 80 ans, on a eu une décennie presque perdue hein, en termes de pouvoir d'achat par tête. Certains pays ont eu une décennie complètement perdue. Regardez ce qui se passe en Italie. Mais on a eu une décennie très très faible, très très faible croissance du pouvoir d'achat. Deuxièmement, il y a des situations individuelles qui sont liées, par exemple, à des localisations, à des problèmes de coûts de transport, de coûts de l'énergie, etc., qui ont touché fortement certains ménages. Tous les ménages qui sont allés s'installer en périurbain, les distances domicile-travail ont augmenté. Alors le coût de l'énergie a pesé sur le revenu de ces ménages. Et puis, troisièmement, quand je disais on a redistribué plutôt vers le bas de la distribution. Donc les ménages, c'est pas exactement qui sont les gilets jaunes, mais je pense que ce sont des gens qui sont, disons, ils sont pas dans les 20% les plus pauvres. Hein. Ils sont un peu au-dessus. Disons, la classe moyenne, le bas de la classe moyenne, et les classes populaires sont des gens-là au moins bénéficié de la redistribution. On a concentré la redistribution sur vraiment les 20% les plus pauvres. Donc c'est juste au-dessus, en fait.
Ça veut dire que les classes moyennes sont les perdantes de cette décennie, Jean Pisani-Ferry?
Les classes moyennes sont pas massivement les perdantes de cette décennie, mais je pense que les classes moyennes ont en même temps perçu quelque chose, qui est que les règles du jeu social ne leur sont pas favorables, que les chances que leurs enfants vivent mieux qu'elles ont fortement diminué. Parce que, au fond, le rêve de la classe moyenne, c'était mes enfants vont vivre mieux, d'une part par l'accès à l'éducation, d'autre part par l'amélioration du niveau de vie général. Et aujourd'hui, en termes d'amélioration du niveau de vie général, les perspectives que les enfants vivent mieux que les parents sont très faibles. Et en termes d'accès à l'éducation, ils voient les limites. Ils voient d'abord tous les bouleversements techniques, toutes les questions sur les emplois de demain, qui vont peser sur les emplois de la classe moyenne. Et puis, ils voient que tout en haut de l'échelle sociale, il y a encore beaucoup de reproduction. C'est-à-dire que c'est pas propre à la France. Dans tous les pays, les gens des 10% supérieurs, en fait, ils trouvent des solutions pour préserver leurs enfants. Ils trouvent des solutions parce que ils les changent de lycée, ils les aident, ils les renvoient dans une autre université quand ils échouent, etc. Toujours est-il que, à la fin, leurs enfants, ils arrivent à les préserver de ce risque, en fait, qui obsède les familles, que les enfants vivent moins bien qu'eux.
Vous dites que c'est une fatalité, mais on voit qu'en France, c'est une fatalité. Est-ce que c'est si vrai que cela dans d'autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles, malgré tout, moins bloqués que le modèle français?
Alors, il y a des modèles qui sont bien meilleurs du point de vue de la capacité pour les gens du bas de l'échelle sociale à faire que leurs enfants accèdent aux emplois supérieurs. La mobilité sociale, au Danemark, si vous voulez, la chance d'accéder aux 25% supérieurs de l'échelle des revenus, elle est presque la même, quelle que soit votre origine sociale, sauf tout en haut. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que ceux du bas aient des chances élevées d'avoir une ascension sociale, mais c'est très difficile de faire en sorte que ceux du haut n'aient pas une chance encore beaucoup plus élevée. Parce que, encore une fois, ce sont les stratégies des familles.
Mais on voit quand même des progressions de salaire un peu partout. En Espagne, et on l'a vu aussi aux États-Unis où c'est assez inattendu, on voit malgré tout que le PIB par habitant français est relativement à la traîne par rapport...
Oui, on est à la traîne par rapport aux pays qui sont aujourd'hui quasiment au plein emploi, qui ont eu une croissance plus forte. Alors l'Espagne a eu un ajustement extraordinairement violent. Hein. Donc l'Espagne se redresse à vive allure, mais après...
Augmentation du SMIC de 22%.
Oui, qui n'ont rien à voir en termes avec ce qu'on a vécu. L'Espagne a monté à des taux de chômage de 20%, ça a été un effondrement. Donc là, il y a le rebond est vigoureux. Mais prenez l'Allemagne. L'Allemagne est aujourd'hui au plein emploi. L'Allemagne est au plein emploi, les entreprises ne savent pas quoi faire pour attirer des candidats à l'embauche, donc elles augmentent les salaires.
Ce qui veut dire que l'arrivée des migrants n'a pas augmenté le chômage.
Non, elle n'a pas augmenté le chômage.
Ces migrants ont été absorbés sur le marché de l'emploi.
Alors, ces migrants, ça dépend, parce que l'Allemagne, il y a à peu près de 300 000 personnes, 400 000 personnes qui arrivent chaque année aujourd'hui hein, en Allemagne. Donc, ça crée énormément d'emplois pour des migrants. Maintenant, sur le flux de demandeurs d'asile, ça a été plus difficile, évidemment, compte tenu de leur origine, leur qualification. Mais ça se fait.
Jean Pisani-Ferry, vous êtes économiste, vous êtes ancien responsable du programme d'Emmanuel Macron et professeur à Sciences Po.